Il est 6h à Paris, 5h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Fabien Albert.
Bonjour Julien.
À la une, le Tchad qui met fin aux accords de coopération, de sécurité et de défense avec la France.
Décision prise hier soir par N'Djamena, allié historique de Paris. Nouveau coup dur pour la présence militaire française au Sahel et surtout beaucoup d'interrogations. Le point dès le début de ce journal. Présence militaire remise en question également au Sénégal. Il n'y aura bientôt plus de soldats français dans le pays. Phrase prononcée à la presse française par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Au Liban, deux jours après un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah, c'est l'heure du retour à la maison pour les habitants du Sud. Certains réfugiés bloqués en France depuis des mois suivent de près la situation. Et puis, cap sur le festival Africolor à la fin de cette édition avec le chanteur tunisien Nidal Yayaoui en concert ce soir.
Un tournant historique dans les relations entre le Tchad et la France.
Par communiqué hier soir, N'Djamena a annoncé qu'il mettait fin aux accords de coopération de sécurité et de défense avec la France. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, énième coup dur pour la présence française au Sahel. Son plus fidèle allié, le Tchad, s'interroge sur la présence du millier de soldats français sur son sol. Coup de semonce porté hier par le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahman Koulamala, quelques heures seulement après la visite de son homologue français Jean-Noël Barrot, ministre qui est arrivé depuis hier soir en Éthiopie. Alexandra Branjon.
Le communiqué a été publié hier soir sur la page Facebook du gouvernement tchadien. On peut y lire « Le gouvernement a décidé de mettre fin aux accords de coopération signés avec la France visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une analyse approfondie marque un tournant historique », affirme le communiqué. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le gouvernement ajoute que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Que veut dire cette rupture? S'agit-il d'un départ de tous les soldats français du sol tchadien? Aujourd'hui, ils sont environ 1000. Ou est-ce un appel à revisiter la coopération? En tout cas, rien n'a filtré à la sortie de l'entretien en fin d'après-midi entre le président tchadien Mahamat Deby et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui effectuait une visite de 24 heures dans le pays. Aucune des deux parties n'a semblé montrer de signe d'une dégradation des relations. Côté français, il n'y a pas eu de déclaration dans la soirée. Alexandra Branjon, Addis Abeba, RFI.
Un communiqué de la diplomatie tchadienne le jour même du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad.
Une présence militaire française remise en cause aussi au Sénégal.
Actuellement, 350 militaires bleu-blanc-rouge sont présents dans le pays, mais peut-être plus pour longtemps, à en croire le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais s'est exprimé dans les colonnes du Monde à la question de savoir s'il n'y aurait bientôt plus de soldats français au Sénégal. Il a répondu « c'est évident ». Qu'il a détaillé également à France Télévisions.
Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France.
Donc les soldats français doivent partir?
Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis.
Bassirou Diomaye Faye qui a reçu une lettre hier signée de son homologue français Emmanuel Macron. Pour la première fois depuis 80 ans, la France parle de massacre à Tiaroy et non plus de répression sanglante. Le 1er décembre 1944, dans le camp de Tiaroy, près de Dakar, les forces coloniales françaises avaient ouvert le feu sur les tirailleurs de retour au pays qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Massacre qui a fait, selon Paris, 70 morts, entre 300 et 400, estiment les historiens.
Au Proche-Orient, J+2 d'un cessez-le-feu très fragile entre Israël et le Hezbollah.
Beyrouth accuse l'État hébreu d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de trêve. De son côté, Israël déclare avoir bombardé une installation de son allié iranien dans le sud du Liban. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, menace lui de mener une guerre intensive si son ennemi reprend les hostilités. C'est dans ce contexte que des milliers de Libanaises et Libanais rentrent chez eux au sud, escortés par l'armée. En France, le cessez-le-feu suscite un nouvel espoir pour les Libanais réfugiés, expatriés ou tout simplement bloqués depuis des mois, Baptiste Coulon.
Le séjour en France de Jihan devait durer 3 semaines. Partie début septembre, avant les bombardements, cette médecin généraliste libanaise n'a jamais pu rentrer à Beyrouth, vol annulé 24 heures avant le départ. 3 mois plus tard, le cessez-le-feu change la donne.
Dès que j'ai entendu parler du cessez-le-feu, comme tous les Libanais, une seule chose m'est venue à l'esprit, redescendre à Beyrouth et fêter Noël avec ma famille. Et c'est exactement ce que je compte faire.
Retrouver les siens, retrouver son emploi aussi.
Le Liban a besoin de tous ces médecins.
Revenir au pays du cèdre, c'est donc un impératif et presque une démarche politique.
Il me semble très important de revenir au Liban parce que c'est un acte d'espoir et de foi en un avenir meilleur pour notre pays.
Mais y a-t-il un espoir que le cessez-le-feu dure et soit respecté? Jihan se dit partagé entre optimisme et incertitude.
Une partie de moi veut y croire car c'est une grande lueur d'espoir après des mois de souffrance. Mais en même temps, j'ai du mal à être pleinement optimiste. Les souvenirs des accords passés qui se sont effondrés me hantent et j'espère que cette trêve sera bien plus qu'une simple pause temporaire.
Condition obligatoire pour que les vols reprennent. Une seule compagnie les a maintenus, ils sont complets. Jihan promet d'acheter son billet dès que possible.
Le reportage de Baptiste Coulon. Ce vendredi 29 novembre marque la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et ce nouvel avertissement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour qui la situation à Gaza est catastrophique, en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne, touchée par de graves pénuries de médicaments et de nourriture. Et puis en Syrie, au nord-ouest, les djihadistes sont aux portes d'Alep. Les rebelles djihadistes tentent d'élargir leur territoire face à l'armée de Bachar el-Assad. En 2 jours, les affrontements ont fait plus de 200 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit des combats les plus violents sur cette zone depuis 4 ans.
C'est un week-end sous haute tension qui se profile pour Michel Barnier.
Le Premier ministre français qui ne doit son salut qu'au bon vouloir de l'extrême droite, pas de hausse des taxes sur l'électricité, baisse de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Michel Barnier multiplie les gestes en faveur du RN. Mais pour Marine Le Pen, ce n'est pas encore assez. Elle lance un ultimatum au Premier ministre. Michel Barnier a jusqu'à lundi pour répondre aux lignes rouges du Rassemblement national sur le budget pour éviter la censure. Dans ce contexte, le Premier ministre était hier à la rencontre des petits patrons à Paris, PME, qui ne seront pas concernés par les augmentations d'impôts. De quoi rassurer des petits patrons inquiétants, alors que des dizaines de milliers d'entreprises ont mis la clé sous la porte ces 12 derniers mois. Écoutez Alain Gargani, chef d'entreprise et représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises pour le sud de la France.
L'économie, elle est en danger, on recrute plus, on n'investit plus parce qu'on était dans cette phase incertaine et aujourd'hui il faut absolument que le budget de la France soit voté. Si on passe pas cette étape-là, on rentre dans un système encore plus catastrophique. Et on n'en a pas besoin au moment où justement, là, au mois de juin, 64 000 entreprises en une année qui ont déposé le bilan. Et c'est du bas bruit parce que les TPE, les PME, on ne sait pas quand ils licencient une ou deux personnes. Mais quand vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui licencient, ça fait beaucoup de monde. Je sors d'une rencontre avec le Premier ministre que j'ai trouvé très engagé et impliqué vers les TPE, PME. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'inquiétudes avant le discours. Il nous a rassurés. On sent qu'il y a une volonté d'accompagner les TPE et les PME qui sont l'économie réelle de nos territoires. Donc pour nous, c'est important d'entendre ce message rassurant.
Alain Gargani au micro de Nathanaël Vitran. La cathédrale Notre-Dame de Paris s'apprête à retrouver son éclat dans la matinée sur le regard du monde entier. Emmanuel Macron déambulera sur le parvis de l'enceinte immortalisée par Victor Hugo. Ultime visite du président français sur le chantier 5 ans après l'incendie et 1 semaine maintenant avant la réouverture du monument au public. Donald Trump, Charles III ou encore Volodymyr Zelensky sont parmi les invités.
Dans l'actualité également, jour d'élection législative législatives anticipées ce vendredi en Irlande.
Au terme d'une campagne expéditive de 3 semaines, les Irlandaises et Irlandais se rendent aux urnes. En 2020, le Sinn Féin, parti historique qui prône la réunification de l'Irlande, semblait à deux doigts de former son premier gouvernement à Dublin. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, l'émergence de candidats indépendants mettant l'immigration en tête des préoccupations vient perturber les pronostics, Clémence Pénard.
Magda est une fidèle du Sinn Féin depuis de nombreuses années, mais cette fois-ci, elle votera pour un candidat sans étiquette.
Mon mari et moi, on a toujours voté Sinn Féin et on a fait campagne pour eux, vous savez, mais plus maintenant, parce qu'ils ont vendu leur âme, ils ne se soucient pas de nous, les gens ordinaires.
Michael Burke, candidat indépendant, fait campagne dans les quartiers nord de Dublin, où la question de l'immigration s'est imposée dans le débat électoral.
Une grande partie des électeurs du Sinn Féin sont issus des quartiers ouvriers, et pourtant ils n'ont cessé de les diaboliser, de les traiter de racistes, de nazis. Nous sommes un peuple indigène, nous sommes comme les Maoris ou les Bretons, mais nous sommes maltraités, on nous fait sentir inférieurs.
Selon Lisa Keenan, politologue à l'université Trinity, le Sinn Féin perd ainsi des voix depuis plusieurs mois au profit de ces candidats-là.
Le Sinn Féin n'a pas une politique d'immigration particulièrement restrictive. Résultat, une partie de ses partisans, les plus radicaux sur cette question, sont déçus.
Mais rien n'est encore joué. Avec une toute récente chute de soutien au Fine Gael, dirigé par le Premier ministre, les 3 principaux partis d'Irlande sont désormais au coude à coude. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
RFI 6h11 à Valence, en Espagne, un mois après les inondations qui ont touché le sud du pays.
Et la crue historique a fait au moins 230 morts, principalement dans la région de Valence. 30 jours après la catastrophe, la situation des sinistrés est toujours délicate. Des hommes et des femmes unanimes sur la responsabilité des autorités. Écoutez le témoignage de Sandra.
On est mal psychologiquement, physiquement. Nos maisons, nos voitures ont souffert aussi. On est affecté économiquement. On est affecté de tous les côtés. Et à travers certaines informations, on voit qu'ils s'en fichent de ce qu'il se passe ici. C'est j'accuse un tel, j'accuse l'autre, j'augmente un salaire. On a du mal à comprendre. Qu'ils viennent ou pas, on se sent un peu abandonné. Et c'est une douleur supplémentaire. Ils auraient dû réagir sur le moment. Mais bon, on comprend que c'était le moment le plus dur. Mais maintenant, toujours pas. Ce n'est pas une question de temps, mais d'envie. À un moment, ma mère m'a interpellée sur ces manifestations dans cette période si compliquée, mais je lui ai dit, il ne s'agit pas d'une manifestation contre tel ou tel parti politique. Il s'agit de sortir la colère qu'on a en nous et de manifester pour que celui qui prend les décisions ne les prenne plus, peu importe qui c'est, parce qu'il joue avec nos vies. Cela a été mauvaise décision sur mauvaise décision. Je dis toujours qu'il faut faire attention parce qu'on peut changer pour pire. Mais dans ce cas, c'est difficile de faire pire.
Un témoignage recueilli par Pauline Glaise. Des rassemblements sont prévus dans toutes les communes ce vendredi soir en hommage aux victimes. Une manifestation est également organisée à Valence demain pour demander la démission de Carlos Mazón, le président de la région.
Et puis de la musique pour refermer votre journal, Fabien, avec le festival Africolore.
Un festival qui se déroule jusqu'à la fin de l'année à Noisy-le-Sec en région parisienne. Ce soir, le Tunisien Nidal Yayaoui revisite le patrimoine musical de son pays, Olivier Roger.
Ne dites pas à Nidal Yayaoui qu'il fait de la fusion. Sa musique est une transposition moderne d'air traditionnel, une adaptation qui s'appuie sur la force percussive du tbal, le bourdonnement de la flûte gapsa, auquel s'ajoute la guitare électrique et parfois même les consoles électroniques. Le chanteur des quartiers du Vieux-Tunis, formé au conservatoire, musicien et musicologue, s'intéresse au répertoire traditionnel de sa région, du nord-ouest de la Tunisie, celle de Seliana, une musique proche de celle des Chaouis algériens. Ce soir, il proposera au public francilien un concert basé sur le projet Masreb El Ataya, Nidal Yayaoui.
Ataya, ce sont les travailleurs saisonniers qui viennent chaque année du sud-ouest jusqu'au nord-ouest. Et on a retracé ce voyage et on a récolté les poèmes et les chansons qui vont avec. Ces poèmes et ces chansons parlent de tout, de souffrance, parlent de l'amour, même de lutte.
Un chant des moissons aux accents à la fois festifs et poignants, s'appuyant sur un répertoire qui traverse les générations.
le chanteur Nidal Yayaoui, en concert ce soir au Festival Africolor. C'est un sujet d'Olivier Roger.
Merci Fabien Albert, à tout à l'heure. Vendredi 29 novembre 2024, RFI Matin, 3 heures d'information et cette annonce du Tchad à la une aujourd'hui, quelques heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères dans le pays. N'Djamena annonce la fin des accords de coopération, de sécurité et de défense avec la France. Un tournant historique, dit le communiqué, la porte ouverte peut-être à un départ des quelques 1000 soldats français présents sur place aujourd'hui. On appelle notre correspondant au Tchad, Carole Valade, dans moins de 20 minutes. Des troupes françaises qui pourraient aussi bientôt quitter le Sénégal, c'est ce qu'a affirmé hier soir Bassirou Diomaye Faye dans une interview au journal Le Monde. Le président sénégalais était aussi sur la chaîne France 2 où il a annoncé qu'Emmanuel Macron lui avait écrit pour reconnaître que les soldats français avaient bien commis un massacre au camp de Tiaroy en 1944.
Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Tiaroy. Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration.
Bassirou Diomaye Faye hier soir à 3 jours du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy au Sénégal. Et puis l'actualité ce matin, ce sont aussi ces entorses au cessez-le-feu hier au Liban, au deuxième jour de la trêve. Le Hezbollah et Israël s'en accusent mutuellement. On en parle avec notre correspondant à Beyrouth à 6h, temps universel. Mais pour commencer ce matin, c'est en Chine que nous partons. À la une en Asie, nous emmène aujourd'hui dans l'extrême ouest du pays, dans le Xinjiang, où depuis 2013, le géant de l'automobile Volkswagen assemble des voitures. Mais c'est fini, le fabricant vend son usine officiellement pour des raisons économiques. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
La face cachée de cette décision, c'est que cette usine est depuis des années accusée d'avoir recours à du travail forcé de la minorité ouïghour.
Et cela s'appelle faire d'une pierre deux coups. Les ventes de Volkswagen sur son marché clé, la Chine, sont en effet en chute libre. Le géant allemand s'est fait doubler par les champions chinois de voitures électriques et l'usine d'Urumqi ne faisait que perdre de l'argent à Volkswagen. Cet argument permet donc aux fabricants allemands une sortie honorable et cela, c'est tant mieux, sans brusquer Pékin. L'autre avantage de ce départ, et pas des moins, c'est que le groupe pourra enfin mettre un terme à la polémique sur sa présence au Xinjiang, cette région tristement célèbre pour la campagne de répression menée contre les quelques 12 millions d'habitants musulmans. Une répression à caractère génocidaire, Julien, comme l'ont d'ailleurs dénoncé le Congrès américain et plusieurs parlements européens dans l'Assemblée nationale en France.
La pression sur Volkswagen était montée d'un cran en septembre dernier après un audit pour le moins suspect, Heike.
Oui, tout à fait. Déjà en février, le retrait de l'autre géant allemand, BASF, avait mis Volkswagen dans l'embarras. Mais le groupe continuait malgré tout à dire que rien ne prouvait un quelconque travail forcé. L'audit d'un cabinet d'avocats à l'appui. Sauf que la fondation Jamestown, un think tank américain très réputé, a bien démontré que ce soi-disant audit indépendant était tout sauf crédible. Pendant les entretiens, les ouvriers étaient filmés, ne pouvaient donc pas s'exprimer librement. Le magazine allemand Der Spiegel critiquait alors le bluff de Volkswagen sur les droits de l'homme et un collectif international de députés d'une trentaine de parlements réclamait alors le retrait du Xinjiang.
Volkswagen aurait donc finalement cédé à cette pression pour sauver son image. Quelles sont les réactions?
Eh bien, le chercheur Adrian Zenz, à l'origine des révélations sur le travail forcé, les stérilisations ou encore les tortures subies par les minorités au Xinjiang, parle lui d'une grande victoire pour la cause ouïghour. Même certains actionnaires de Volkswagen en Allemagne saluent la décision en disant que, bien que tardif, ce retrait montre que les droits de l'homme ne sont pas négociables. En fait, Julien, ce départ définitif peut aussi être lu comme une fuite en avant, car Washington vient d'élargir sa liste noire interdisant d'importer des produits provenant du Xinjiang. Et avec la nouvelle administration Trump et des faux camps anti-Chine, comme par exemple Marco Rubio, choisi par Donald Trump pour être secrétaire d'État, eh bien cette politique ne s'arrêtera certainement pas de si tôt.
À la une en Asie, Heike Schmidt avec nous, merci beaucoup.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et comme chaque vendredi, avant de retrouver Catherine Potet pour le tour des journaux africains et du monde, tout à l'heure, on ouvre tout de suite les pages de la presse française. Avec à la une ce matin, un homme et une grande dame qui renaît de ses cendres, la cathédrale Notre-Dame, qui rouvrira ses portes dans une semaine. Et un homme, Emmanuel Macron, qui fera aujourd'hui une visite de fin de chantier diffusée dans le monde entier, lui qui avait promis au soir de l'incendie en 2019 qu'elle serait reconstruite en 5 ans, Paris tenu, seul en scène, titre Libération, fidèle à sa tradition des jeux de mots, en orthographiant le mot scène comme le dernier repas du Christ, Libé qui note que le président cherche à tirer un peu la couverture de l'événement une semaine avant la réouverture officielle. Cette bonne guerre, reconnaît le journal qui rappelle la situation politique difficile d'Emmanuel Macron, un gouvernement menacé de censure et les appels à sa démission. Alors quoi? Qu'est-ce qui cloche? S'interroge Libé. Comme une crainte, répond le journal, que le président ne bombe pas un minimum, mais un maximum le torse, qu'il ne tire pas un peu, mais beaucoup trop la couverture à lui. L'Opinion note aussi que cette visite à Notre-Dame marque une pause dans le chaos pour Emmanuel Macron. Cette visite sera son heure de gloire, peut-être la dernière, écrit le quotidien. La splendeur de Notre-Dame restaurée d'un côté, un quinquennat au bord de la ruine de l'autre. Pour le président, pas question d'en faire trop, croit ceci dit savoir l'Opinion, citant un membre de son entourage qui promet le sublime de l'effacement pour cette visite. Et le sublime, justement, ce sont ces voûtes qui ont retrouvé une blancheur inédite depuis le 19e siècle. Les murs des chapelles où les couleurs oubliées sous la crasse ont été patiemment remises au jour. Plus belle que jamais, titre Le Parisien qui nous en met plein les yeux, avec des photos inédites et magnifiques de Notre-Dame restaurée. 6h21 à Paris. Et dans notre reportage France ce matin, une rencontre en Seine-Saint-Denis, en banlieue de Paris, dans un îlot de verdure au milieu des barres d'immeubles. C'est là que vit le berger Yaya Touré. Du Mali à la France, il est resté le gardien des moutons et des chèvres. Reportage au parc des Chantraines de Villeneuve-la-Garenne, Alexis Bédu.
Depuis la nuit des temps, à chaque berger, il a des choses. Il a un bâton. Il a un couteau, ça c'est obligatoire. Dans notre coutume à nous, c'est comme ça. Tu peux ouvrir la porte. Voilà. Avec eux, il faut être devant, ne sois jamais derrière, pour qu'ils te suivent.
Il dit qu'il préfère les animaux aux hommes. Yaya Touré a 8 ans quand il conduit son premier troupeau à l'ouest du Mali, dans la région de Kaï.
Vers Gadiaga.
Il est vêtu d'une longue tenue de berger, orange fluo bariolé, européenne.
Là-bas, je vois que la pousse a commencé à pousser beaucoup. Donc, ils vont manger. C'est comme ça qu'on est en train d'entretenir les parcs. Voilà, c'est pour ça qu'un animal dans un enclos, ça m'énerve. J'aime pas.
Yaya Touré arrive en France à 20 ans, au début des années 90. Besoin d'aventure, dit-il. Il fait venir sa femme et enchaîne les petits boulots.
J'ai fait la cuisine, peinture. J'ai fait l'électricité.
Jusqu'à trouver le Graal ici, au parc des Chantraines.
Ça étonne beaucoup, beaucoup de gens. Un berger en plein cœur de Paris, c'est étonnant. Eh, dégage.
Là, il y a la voiture d'un collègue qui essaye de passer, mais...
Quoi, il va venir? Oui, je sais.
Il est en train de se faire gronder parce qu'il marche trop vite, Yaya Touré.
Ouais. C'est ma mode de marcher, parce que chez nous, c'est comme ça. Quand j'étais berger, on partait entre 3 à 4 km de village, on est nomade.
Yaya Touré est resté proche de son pays natal. Il y retourne presque tous les ans, voir sa mère, ses amis, malgré la crise diplomatique entre Bamako et Paris, qu'il regrette amèrement.
Franchement, c'est très compliqué. Politiquement, moralement, ça nous fait fatiguer. Un, les billets sont trop chers. Deux, t'as pas de choix.
C'est combien?
Le billet, c'est pas moins de 1200 euros. Aller-retour. Préférence, il faut un arrangement entre les deux pays. C'est l'État qui s'aime pas, mais pas les populations. Un Français qui part au Mali en tant que citoyen français qui n'est pas dans la politique, il est bienvenu. Là, ça me rappelle ma jeunesse à 100%. Je suis complètement heureux. Malgré, j'aime pas le froid, mais tant que je vois les animaux devant moi, j'ai plus froid.
C'est étonnant, comme il dit, Yaya Touré et Alexis Bédu pour notre reportage France, à retrouver sur RFI.fr. Et dans RFI Matin, on regarde un peu plus loin à l'horizon de votre journée à l'écoute de la Radio du Monde. Chaque vendredi, vous nous posez vos questions sur le travail de nos rédactions et Juliette Rangeval vous répond dans Pourquoi RFI dit ça. Bonjour Juliette.
Bonjour Julien.
Vous vous penchez aujourd'hui sur les cartes géographiques que nous utilisons à RFI.
À travers les questions et les commentaires des auditeurs de RFI face à ces cartes se dessine une vision du monde et c'est d'ailleurs le propre des cartes, me direz-vous. La carte qui a beaucoup fait réagir ces derniers jours, elle se trouve dans une vidéo qui présente les 24 qualifiés de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. On y aperçoit la silhouette du Maroc, pays hôte et l'un des favoris de la compétition, mais sans le Sahara occidental. Alors certains semblent penser qu'RFI devrait s'aligner sur la position diplomatique française concernant la question sahraoui. Mais est-ce vraiment notre rôle ? Réponse de Laurent Corot, rédacteur en chef Afrique de RFI.
Nous ne sommes pas là pour soutenir les choix politiques de la France. RFI, oui, est une radio française, mais c'est ce qu'on appelle une radio de service public. Nous défendons une information à la française, une information indépendante, équilibrée, neutre, qui cherche à faire vivre un débat international contradictoire, intelligent, un débat qui serait débarrassé des manipulations et des fake news. En fait, c'est ça notre mission.
Et puis nous parlerons des cartes, de la manière dont on les choisit, dont on les publie, avec le directeur de la création visuelle et sonore de France Média Monde, Michel Nouguet.
Vous revenez également cette semaine sur la guerre à Gaza et en particulier sur le mot de génocide employé entre guillemets dans un tweet.
Ce mot, on le retrouve à la croisée de l'histoire et du droit. Et il est souvent utilisé par les différents acteurs de ce dossier sur la scène internationale ou ici en France à des fins politiques. Oriane Verdier, spécialiste du Proche-Orient, viendra nous dire comment nous l'employons à RFI. Et puis au-delà du fond, comme il s'agit d'un tweet, un message très court, elle nous le dit, il y a aussi une question de forme.
Il s'agit d'un tweet d'RFI, mais par définition, il faut là aussi être concis, tout en ayant l'obligation de rester précis et juste. Et donc, au-delà des défis de fond, il y a en effet un défi de forme, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la radio.
Oriane Verdier dans Pourquoi RFI dit ça, sans oublier, comme chaque semaine, dans l'émission La Chronique de Frédéric Genot, qui plonge aujourd'hui dans le vocabulaire feutré des diplomates. Juliette Rangeval, on vous retrouve à 11h10 et 19h40, temps universel. Bientôt 5h30 en temps universel. Et tout de suite un peu de musique avant le journal avec une Française qu'on ne présente plus, Zao de Sagazan, devenue un véritable phénomène ces derniers mois. Son titre Au Travers est dans notre sélection du mois.
Au travers de l'humain, on comprend des choses controversées. Au travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi. De travers, je prendrai la pose. Moi, je les aime, mes travers. Donnez-les-vous, j'en ferai quelque chose. Au travers de chacun s'installent des choses. Traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Au mani, je vous mets en lumière, je me fais face. Fini le déni, fini les manières, blablabla. Et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers.
Zao de Sagazan, Au Travers sur RFI. Et notre sélection du mois que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Le journal dans une minute.
Des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Prie
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, conseils après la naissance, prendre soin de bébé, attachement, alimentation, éveil, apprendre à se connaître.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Depuis quelques années, start-up et compte Instagram se multiplient pour initier ou aider les femmes à perfectionner leur gestion budgétaire. Comment appréhender son budget de manière apaisée? Quel autre levier en matière d'éducation financière des femmes?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.